Merci Will. On accueille les Fatal Picard, de retour dans la playlist, avec Cure toujours sur les problèmes existentiels d'un ado gothique. C'est toi qui trouvais que ça allait bien avec Wild, que tu trouves parfois un peu géniard, c'est bien ça?
Un peu grandiloquent dans sa déprime.
D'accord. Et que dirait ta directrice de mémoire d'un tel commentaire?
Je pense qu'elle ne dirait rien, mais qu'elle se permettrait de prendre une encyclopédie et de retirer ma tête avec.
Bref, comme le savent peut-être ceux qui écoutent en spectateur, je ne suis pas toujours seule dans ma tête. C'est donc avec grand plaisir que je prête ma voix à Gérard de Nerval, un des deux seuls auteurs de la langue française qu'on peut appeler par leur prénom, dicté par prof de français de première. Dans El Desdichado, probablement son poème le plus connu, extrait du recueil Les Chimères, on trouve en effet des allusions à ces deux crises de folie qui précipitent sa dégringolade mentale. Sous un portrait autobiographique, il aurait inscrit « Je suis l'autre ». Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux. Spoiler, se retrouver pendu en 1855, très probablement un suicide. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treuil ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Le chœur initial, O Fortuna, extrait du cantate Carmina Burana, composé par Karl Hoff dans les années 30, de quoi vous donner des frissons jusque dans les doigts de pied. Non seulement les paroles sont super joyeuses, trouvez-vous un latiniste ou allez sur Google, mais les nazis l'avaient apparemment classé comme une célébration de la race aryenne. Bref, tout plein de souvenirs quoi. Mais quand même sacrément classe. Si vous êtes curieux, un site répertorie 368 réécritures différentes du sonnet de Nerval par les membres de l'Oulipo. Je vous en lis une. El Destonado. Je suis le tensoriel, le vieux, l'inconsommé, le printemps d'Arabie à la tourbe abonnie, ma simple étole est molle et mon lynx consterné pose le soleil noué de la mélanémie. Dans l'obie du tombeur, toi qui m'as consommé, rends-moi le pays pousse et la miss d'Olympie, la foi qui poignait tant à mon coin désossé et la trempe où la pente à la rosse s'appuie. Suis-je Ampère ou Fédon, Luxembourg ou Biton? Mon fruit est roux encore du balai de la peine, j'ai riblé dans la grue où nappe la trentaine et j'ai trois fois véré, travesti la lagnon. Moissonnant tour à tour sur la mâche du gré, les sourcils de la salle et les crics de la fouée. C'était X plus 1 fonctionnel 1 de Raymond Queneau. Explication, chaque adjectif, substantif et verbe est remplacé par le suivant dans le nouveau Petit Larousse illustré édition 1952, à condition qu'il remplisse les mêmes fonctions syntaxiques et prosodiques. A plus 1, S plus 1, V plus 1 fonctionnel 1. Les rimes ont été de plus conservées et les verbes auxiliaires ou quasi-auxiliaires, être, avoir, aller, n'ont pas été modifiés. C'était histoire de briser un peu la distance aux enfers, puisque la discussion nous tend les bras et que nous suivons aujourd'hui l'étendard d'un humoriste. Vivons heureux en attendant la mort, texte de Pierre Desproges. Humour noir donc, de quoi rire jaune si on a vraiment le blues, à moins que Camille ne réussisse à nous faire voir la vie en rose. Cette phrase était sponsorisée par Mur, la lessive qui te réserve la fraîcheur et l'éclat des couleurs de votre linge. Efficace même en eau froide, faites un geste pour la planète. Sinon on va tous mûrir.
Adieu l'âge vert, je suis dans l'âge mûr. L'âge mûr, par définition, c'est la période de la vie qui précède l'âge pourri. Récemment, les occasions de constater mon entrée irréversible dans l'âge mûr m'ont méchamment sauté à la gueule. Je supporte de plus en plus difficilement les cuites aux ponches des îles lointaines et le rock'n'roll des caves profondes. Je suis de plus en plus fermement convaincue que les gens de 20 ans, que je tenais pour de vieux cons quand j'en avais 15, sont tous de jeunes imbéciles. Je suis allée voir le docteur Brouchard, en qui j'ai pleinement confiance. Il m'a vu naître, je l'ai vu naître, nous nous sommes vus naître. Après m'avoir ausculté de fond en comble avec minutie, il a dit « Pierre, mon vieux, mon pauvre vieux, eh bien j'ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d'une maladie à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence des cellules, et écoutez, soyez clair, j'ai un cancer ? C'est-à-dire que non, je ne dis pas cela. Vous dites irréversible, c'est mortel, c'est donc bien un cancer, Parlez-moi franchement. Il me reste combien de temps ? À mon avis, dans le meilleur des cas, vous en avez encore pour 30 à 40 ans, maximum. Mais si ce n'est pas un cancer, comment s'appelle cette maladie ? C'est la vie. La vie ? Vous voulez dire que je suis vivant, oui. Hélas. Mais où est-ce que j'ai pu attraper une pareille saloperie ? C'est malheureusement héréditaire. Avant l'issue finale, qui devrait se situer vers la fin de ce siècle, si tout va bien, vos troubles physiques et mentaux iront s'aggravant de façon inéluctable. En ce qui concerne les premiers, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez vous racornir, vous rétrécir, vous coincer, vous durcir, vous flétrir. Vous allez perdre vos dents, vos cheveux, vos yeux, vos oreilles, votre voix, vos muscles, votre prostate, vos lunettes, etc. Moralement, de très nombreuses personnes parviennent cependant à supporter assez bien la vie en s'agitant pour oublier. C'est ainsi que certains sont champions de course à pied, président de la République, alcoolique ou cœur de l'armée rouge. Autant d'occupations qui ne débouchent évidemment sur rien d'autre que la mort, mais qui peuvent apporter chez le malade une euphorie passagère ou même permanente, chez les imbéciles notamment. Et vous n'avez pas d'autres médications à me suggérer ? Il y a bien la religion, c'est une défense naturelle qui permet à ceux qui la possèdent de supporter relativement bien la vie en s'auto-suggérant qu'elle a un sens et qu'ils sont immortels. Soyons sérieux. Alors je ne vois plus qu'un remède pour guérir de la vie, c'est le suicide. Ça fait mal. Non mais c'est mortel. Voilà, c'est 200 francs. 200 francs ? C'est cher ! C'est la vie. Bien, donc sur cette note d'humour noir, peut-être on peut essayer de lancer un peu la discussion sur un truc qui serait un peu moins déprimant que le thème d'aujourd'hui, malgré l'intitulé. Comment on fait pour faire un texte aussi drôle en parlant de quelque chose d'aussi peu drôle ? Et comment on fait tout simplement pour écrire, enfin c'est un peu facile, tu vois, le cliché du poète qui écrit avec sa bile noire, et enfin on a beaucoup parlé de le spleen, c'est ça, c'est l'inspiration qui naît des humeurs noires et tout. Comment ça marche en fait, et est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est réellement intéressant dans les textes qu'on a lus ?
Baudelaire, c'est un peu le tournant, je pense, c'est un peu la fin de tout ce courant, on va dire, un peu j'écris parce que je pleure, etc. Bah, après, il y a des résurrections, genre le courant émo, si on peut appeler ça de l'art. Mais après, je pense que par exemple, Laforgue, en fait, ses complaintes sont extrêmement pessimistes. Mais en même temps, c'est juste un grand jeu de langage. Genre, il joue avec les mots, puis il fait des phrases allemandes qu'il écrit avec des mots en français. Voilà. Donc je pense que, justement, au bout d'un moment, en fait, l'humour, ça permet aussi de lutter peut-être un peu contre cette espèce de... Suicidons-nous ensemble.
Je vais réduire mon champ à un truc qui est peut-être plus, plus psychologique, mais...
Donc ma réponse ne sert à rien.
Non, tu as tellement répondu à la question, je suis obligée de rebondir là-dessus. Est-ce que ça marche, en fait, genre j'écris pour aller mieux, genre Oscar Wilde qui écrit...
Oscar Wilde, en fait, c'est assez marrant parce qu'en gros, il passe une bonne centaine de pages à dire « Putain, Douglas, t'es trop nul, à cause de toi, je suis en prison. » Et à la fin, il lui fait « Oui, mais en fait, je t'aime toujours. » Donc, dans un sens, ça marche. Après, voilà. Disons qu'il va mieux, mais uniquement pour aller moins bien après. Donc,
Pour Nerval, je sais que son médecin ne voulait pas qu'il écrive ses derniers recueils de poésie, les chimères, tout ça, parce qu'il pensait que ça allait en gros complètement détruire sa santé mentale. Mais c'est vrai qu'on s'imagine le poète en train de déverser sa douleur sur la page, mais quand tu regardes des poèmes comme Nerval, comme Baudelaire, c'est pas comme s'il l'avait écrit d'une traite en exprimant sa douleur. Enfin, c'est travaillé au niveau du rythme, des images. Enfin...
Donc la douleur, c'est un point de départ. Après, c'est justement comment exprimer ça dans les mots. Et on peut finalement écrire quelque chose de très déprimant en étant très joyeux, je pense. Il faut juste trouver l'expression parfaite, etc.
Et on peut apparemment écrire quelque chose de très drôle en étant... Bah, pas joué du tout, parce qu'on a Beckett, une forme d'humour absurde, on a eu donc des proches. Comment. C'est. Je sais pas, c'est un peu le concept de la catharsis aussi, c'est on rit de ce qui nous fait peur, on rit de la mort, on rit du suicide, on rit du cancer, enfin. Mais est-ce que ça. Pourquoi c'est aussi drôle en fait, ça qui est perturbant, c'est qu'on arrive à. On rit rarement autant que quand on lit un passage aussi déprimant, non ?
Je sais pas, je pense qu'il y a déprimant et il y a provoquant. Mais des proches, c'est plus apparemment une espèce de rire un peu choqué parce que c'est pas quelque chose sur lequel c'est correct de faire des blagues. Mais en même temps, le fait qu'il ose le dire, c'est comme si le rire il sortait tout seul.
Pour l'anecdote, des proches dans un spectacle a lu une lettre d'une femme qui avait un cancer et qui lui disait merci, continuez, c'était super drôle. Et... Donc on peut quand même rire, ça dépend aussi du personnel, mais sinon c'est des proches qui disaient qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Donc,
Et puis après, c'est vrai que je pense que c'est aussi plus universel comme humour, donc. Ça fait peut-être plus rire parce que ça rapporte des choses un peu primaires en sorte, quoi. Enfin, la vie, la mort. Je pense qu'on peut faire un arc avec l'émission qu'on avait fait sur l'horreur, parce que c'est un peu ça aussi. C'est le fait qu'on est en sécurité malgré tout. C'est vrai qu'un texte, même s'il est très déprimant ou très déprimé, bah mine de rien, comme la mise en scène, finalement, nous, on est quand même dans le rôle du spectateur. On est en train de lire dans un canapé, un bureau, on attend le métro ou je ne sais quoi. Donc finalement, on est quand même un peu détaché du texte ou de la représentation. Donc il y a toujours quand même une sorte de protection, mine de rien.
C'est pour ça que je classerais peut-être à part le texte d'Hagerman, parce que c'est plus un écrit testimonial que vraiment une même signalitaire. C'est un texte qu'on a retrouvé qu'il n'a pas publié, qu'on a retrouvé dans son bureau après son suicide. Et quand toi, t'as dit qu'il y avait un spoiler, mais quand on sait que c'était la dernière chose qu'il a écrite avant de se suicider, on sent vraiment qu'on a affaire à quelque chose qui est du domaine de la littérature, mais aussi un peu au-delà. Puisqu'on a vraiment une personne qui écrivait pour lui-même et qui a essayé de s'en sortir. Et là, le texte finit sur une espèce de note d'espoir dont on sait qu'elle a échoué, puisque 2 ans plus tard, il a mis fin à ses jours. Donc finalement, c'est assez intéressant de voir que là, l'art est mis en échec pour moi. Enfin, on produit quelque chose de beau, mais dans un but qui n'était pas celui de produire un texte littéraire, vraiment.
Ouais, il voulait publier sa lettre.
Alors, c'est très compliqué. Officiellement, il ne voulait pas que ce soit publié de son vivant, mais il a fait faire 2 copies de son texte à sa sortie de prison, et je pense... c'est très clair qu'il savait que ça allait être publié, parce qu'il savait qu'il était connu, etc. Mais il ne voulait pas que ce soit publié avant sa mort, en tout cas.
Ce que je pensais avec Nerval, c'est que c'est très incompréhensible, en fait, comme poème. Enfin, c'est très très beau, il y a plein d'images, tout ça, mais il y a beaucoup de trucs qui sont un peu vraiment des allusions, comme s'il avait utilisé, sa douleur, ses problèmes dans la tête, quoi, mais qu'il avait tout caché dans des symboles. Il y a plein d'allusions aux cartes de tarot, les recherches de... probablement une allusion à une femme qu'il aimait, qui est morte, mais c'est pas très clair, personne ne sait trop. Donc il y a à la fois genre, des textes intimes qui viennent à la lumière du jour, alors qu'ils ne devaient peut-être pas obligatoirement être publiés, et qui sont de grands écrivains, et qui sont écrits vraiment comme des journaux intimes, comme des lettres. Et il y en a d'autres qui sont des textes officiels, mais qui du coup sont... où la douleur est carrément quasiment illisible, tellement ils l'ont enrubané, coupé, découpé. Donc c'est...
Mais ça fait de l'art aussi, ne pas tout saisir, etc. Théorie, le texte ouvert, blablabla. Et nous espérons, lecteur, ne pas t'avoir fait trop déprimer par nos lectures. Et sinon, comme te l'a proposé Caroline tout à l'heure, tu n'hésites pas à plonger ton nez dans un bol de chocolat.
Extrait de la BO composée par le groupe français Air pour le film Virgin Suicides de Sofia Coppola, titre numéro 3, Bathroom Girl. Oui, une allusion à la première tentative de la plus jeune sœur, Cecilia. Ô douleur, ô désespoir, voit déjà la fin de l'émission arriver. Qui sait quand nous nous reverrons, ô compagnons d'infortune, quand nos chemins torturés déboucheront à la lumière du jour ? Moi je le sais vu que je fais le montage. On essaie de vous cuisiner le prochain opus pour dans 2 semaines sur un thème qui ne devrait pas faire verser une seule larme, les pieds. Sauf pour les unijambistes. Et les tétraplégiques. Et les gens qui ont des ampoules au talon parce que ça fait super mal. Thème d'aujourd'hui proposé par Camille, maquette et playlist composée par Will et moi-même, avec l'aimable participation de Thomas qui nous a proposé les Fatal Picard et Dalida. En mini-virgule, vous aviez les Happy Tree Friends et Romain Lacombe. Merci à Robin d'être de retour derrière sa table de mixage. Et nous avons un t-shirt du jour, sans parole malheureusement, mais tout à fait magnifique. Donc un orange pétant. Et dessus, donc une tête de mort qu'on suit avec des tout petits cubes de couleurs. Genre, si vous zoomez sur une image sur un ordinateur, donc pixel, voilà. Donc, la mort dans l'internet, orange mécanique, mortel. Alors, si ce tableau radiophonique en bleu et noir n'était pas de votre goût, je vous rappelle que notre émission en live sur littérature et guerre était, elle, assez joyeuse, en tout cas pour la playlist, et toujours disponible à la réécoute sur le site de la journée de la radio. Si décidément, non, vous en avez marre de nos délires. Laissez-nous notre triste sort et allez fourrer les nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Vous vous demandiez si c'était fait exprès de faire la déprime pour l'épisode 13. Ah mais pas du tout, j'ai pas du tout fait exprès. En plus, vous vous en foutez, mais on enregistre un vendredi. Non, je ne suis pas suicidaire. Et pour ne pas vous en convaincre, voici la fin romanesque la plus déprimante de ma carrière de lectrice, L'Assommoir d'Émile Zola. Gervaise, son héroïne, a tout perdu. Sa blanchisserie, son argent, son logement, son mari, sa fille, Nana la prostituée, sa dignité et presque toute sa vie.
Virgule de fin des Toupoutous d'Alain Chabat. C'est seulement mignon si vous avez jamais vu un épisode. Toi qui entres ici, abandonne toute espérance.
Avez-vous déjà vu
Poutou, 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 Poutou.
Une fin de roman déprimante.
Poutou, Poutou, Poutou.
Gervaise dura ainsi pendant des mois. Elle dégringolait plus bas encore, acceptait les dernières avanies, mourait un peu de faim tous les jours. Dès qu'elle possédait 4 sous, elle buvait et battait les murs. On la chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu'elle ne mangerait pas quelque chose de dégoûtant, et elle l'avait mangé pour gagner 10 sous. Monsieur Maresco s'était décidé à l'expulser de la chambre du 6e. Mais comme on venait de trouver le père Bru mort dans son trou, sous l'escalier, le propriétaire avait bien voulu lui laisser cette niche. Maintenant, elle habitait la niche du père Bru. C'était là-dedans, sur de la vieille paille, qu'elle claquait du bec, le ventre vide et les os glacés. La terre ne voulait pas d'elle, apparemment. Elle devenait idiote. Elle ne songeait seulement pas à se jeter du 6e sur le pavé de la cour pour en finir. La mort devait la prendre petit à petit, morceau par morceau, en la traînant ainsi jusqu'au bout dans la sacrée existence qu'elle s'était faite. Même on ne sut jamais au juste de quoi elle était morte, on parla d'un froid et chaud. Mais la vérité était qu'elle s'en allait de misère, des ordures et des fatigues de sa vie gâtée. Elle creva d'avachissement, selon le mot des Lorilleux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le corridor, on se rappela qu'on ne l'avait pas vue depuis 2 jours, et on la découvrit déjà verte dans sa niche. Justement, ce fut le père Bazoug qui vient, avec la caisse des pauvres sous les bras, pour l'emballer. Il était encore joliment saoul ce soir-là, mais bonzig tout de même et gai comme un pinson. Quand il eut reconnu la pratique à laquelle il l'avait affaire, il lâcha des réflexions philosophiques en préparant son petit ménage. Et lorsqu'il empoigna Gervaise dans ses grosses mains noires, il fut pris d'une tendresse. Il souleva doucement cette femme qui avait eu un si long béguin pour lui. Puis, en l'allongeant au fond de la bière avec un soin paternel, il bégaya entre 2 hoquets.
« Tu sais, écoute-moi bien. C'est moi, Bibi la Gaîté, dit le consolateur des dames. Va, t'es heureuse. Fais dodo, ma belle. »